La parole du jour avec Paul Rodier.
Bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi, c'est le bienheureux Joseph Lataste qui va nous accompagner dans notre méditation. Dernier d'une famille de 7 enfants, Alcide Vital Lataste est né le 5 septembre 1832 à Cadillac. Ses parents, Vital Lataste et Jeanne Gracier, tous deux originaires de la région, étaient propriétaires de quelques arpents de vigne et d'un négoce de tissus. Son père, libre penseur, ne se posait pas à la piété de son épouse qui éleva chrétiennement ses enfants. Joseph est baptisé le lendemain de sa naissance. Sa sœur Rosie, qui rejoindra plus tard les filles de la sagesse, sous le nom de sœur Saint-Crescentien, fut sa marraine. À la suite de graves problèmes de santé, Alcide dut quitter Cadillac pour aller vivre à Loupiac, où il restera 3 ans. Il en revint guéri et attribuera ultérieurement cette guérison à ses profondes et nombreuses prières à la Sainte Vierge. La vocation sacerdotale grandissait dans l'esprit d'Alcide, mais par humilité, il craignait d'en être indigne. Admis au collège de Pons pour la poursuite de ses études, dans la section laïque, sur ordre de son père, ses supérieurs ne l'encouragèrent pas à approfondir sa vocation. Seule sa sœur Rosie le soutint et l'empêcha d'abandonner et de devenir indifférent à toute forme de vie religieuse. Encouragé par son père, Alcide décida d'intégrer la fonction publique en prenant un poste de contrôleur des contributions. Il travaillera pour l'administration des impôts de 1851 à 1857. Il fréquenta le cercle Fénelon, groupe de jeunes gens chrétiens. C'est là qu'il découvrit pour la première fois l'adoration nocturne du Saint-Sacrement. C'est là aussi qu'il fit connaissance avec la Société de Saint-Vincent de Paul. Le 4 août 1852, Alcide est présenté officiellement à la conférence Saint-Vincent de Paul, où il est accueilli à l'unanimité. Pendant les 6 ans qu'il passera dans l'administration des contributions, il sera parallèlement un membre très actif des conférences, que ce soit à Privas, Pau ou Nérac, où il exerçait son métier. Le chanoine Mercier dira de lui « Doué d'un cœur bon et compatissant, il ne fut pas longtemps novice dans l'exercice de la charité. Se dévouer était pour lui un besoin. Il s'efforça de le satisfaire, à Bordeaux d'abord et ensuite à Privas. » Au dire d'un respectable ecclésiastique qui exerçait alors le ministère dans cette ville, Alcide Lataste ne se contentait pas de se rendre chez les malheureux dont les visites lui étaient assignées pour leur porter en simple commissionnaire un bon de pain ou de viande. Il s'attachait à eux et se les attachait. Ses visites étaient longues et respiraient la plus franche cordialité. Aussi était-elle attendue avec impatience et accueillie avec joie. C'est au sein de ces groupements caritatifs qu'il approfondit et médita les bases de la vie chrétienne telle qu'il l'ait vécue tout le restant de sa vie. La vie communautaire, le souci des pauvres et le culte de l'Eucharistie. Je cite « Faites, ô mon Dieu, que notre société se consolide, s'étende et se perpétue avec son esprit primitif de piété, de simplicité et d'union fraternelle, afin que ses œuvres pleinement dégagées des intérêts de la terre deviennent de plus en plus fécondes pour le ciel. » Alcide et ses compagnons participaient aux séances d'adoration nocturne, fondement et force de leur action caritative, les deux émanant l'un de l'autre, ne pouvant être dissociés dans leur esprit. Alcide continue ses activités au sein des conférences et réfléchit de plus en plus profondément à l'orientation religieuse de sa jeune vie, s'interrogeant sur ses motivations profondes. Je cite « Je suis un lâche. Je n'ose me consacrer à Dieu parce que ma faiblesse et les penchants de mon cœur, la gravité des fautes et presque leur irréparabilité, une fois entré dans ce saint état m'effraie, et je m'arrête. D'un autre côté, vivre dans le monde avec mon caractère et mon cœur et rester dans un isolement continuel, je ne m'en sens pas la force. » Après un long et profond retour sur lui-même et de nombreuses interrogations, Alcide se décida à suivre la vocation qui s'imposait à lui de façon de plus en plus péremptoire. Le mercredi 4 novembre 1857, il se présenta au noviciat des frères prêcheurs de Flavigny-sur-Oserin. La candidature d'Alcide est acceptée par le conseil conventuel le 8 novembre. Il est alors tout à sa joie devant tout ce qu'il découvre et approfondit. Je cite « Je ne puis comprendre comment il se peut faire que je sois si calme, si tranquille, si heureux. Certainement j'espérais l'être, mais non pas sans peine, sans lutte, sans combat. Le bon Dieu, je le vois bien, ménage mes forces. Il réserve les épreuves pour les jours où je serai plus fort. Ce qu'il y a de certain, c'est que jamais je n'ai été si heureux, aussi calme, aussi gai. Jamais je n'ai ri, jamais je n'ai dormi d'aussi bon cœur. Son enthousiasme se heurte rapidement à un grave problème de santé. Une septicémie due à un panéry mal soigné, avec de lourdes séquelles, l'oblige à des cures thermales longues, retardant d'autant sa profession, épreuve qu'il subit avec patience et courage. Après une cure à Barèges et un séjour à Arcachon, il est envoyé à Toulouse, au couvent Saint-Romain, où il étudie la théologie. Et c'est le 10 mai 1859 qu'il fait enfin sa profession religieuse en présence de son père et de deux de ses frères. Le lendemain, il part pour le couvent de Chalais, près de Grenoble. Ce séjour est toutefois de courte durée. En effet, le père Lacordaire décida en 1859 de transférer la communauté à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Le 5 juillet 1859, les jeunes frères entraient dans leur nouveau couvent. C'est en ces lieux que le frère Jean-Joseph Lataste va approfondir sa vie spirituelle et faire connaissance avec Marie-Madeleine, qui sera l'inspiratrice de sa vocation de fondateur. C'est le 10 mai 1862 que le frère Jean-Joseph fit profession solennelle et le 8 février 1863 qu'il fut ordonné par Mgr Pétagna à Marseille. Sa première année de ministère, le père Lataste fut chargé de nombreuses prédications, de l'animation de retraite, de confession et de l'instauration d'adoration perpétuelle. Déjà lors de son séjour dans les Pyrénées, il avait été sensibilisé à la détresse des femmes en difficulté, bien avant la décisive rencontre avec les détenus de Cadillac, laquelle aura lieu pour la première fois en septembre 1864, lors d'une retraite où ses supérieurs l'avaient envoyé prêcher. D'emblée, le prédicateur aborde les détenus en leur adressant des mots qu'elles n'avaient pas l'habitude d'entendre. Je cite « Et moi, moi, ministre de Dieu, consacré, quoique très indigne, au service de ces autels, voué pour toute ma vie à la privation absolue de tout ce dont vous avez abusé, volontairement lié par les vœux perpétuels de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, moi, je viens à vous de moi-même, sans attendre que vous m'ayez appelé, et vous tendant les mains, je vous appelle, mes bonnes, mes pauvres, mes chères sœurs. » Parallèlement, il entend longuement les détenus en confession et parle avec une foi profonde de la miséricorde divine. Et c'est là, entre la découverte du monde carcéral inspirée par l'exemple de Marie-Madeleine et confortée par l'espérance profonde qu'il avait dans le pardon divin, le père Lataste entrevit ce qui allait être un projet novateur, la fondation de Béthanie. Dans l'enthousiasme de sa jeunesse, il avait 32 ans, et dans l'intime conviction que c'était là l'œuvre voulue par Dieu, le père Lataste se lança immédiatement dans les démarches de fondation d'une congrégation qui accueillerait des détenus en fin de peine afin qu'elles retrouvent le chemin de la prière et du pardon au milieu d'autres religieuses. Les réticences furent nombreuses. Il n'était pas dans l'esprit du temps d'imaginer une quelconque rédemption pour ces personnes que la société considérait comme définitivement perdues pour elles. C'est en 1865 que le père Lataste put retrouver des détenus de Cadillac et l'attitude des femmes lors de l'adoration et des confessions qu'il reçoit lui font envisager encore plus intensément l'urgence de la fondation qu'il souhaitait pour elles. Je cite « J'ai eu l'occasion une fois de plus d'admirer le travail de la grâce dans ces âmes et de constater la nécessité et l'opportunité de cette fondation, non seulement pour plus tard, mais dès maintenant. » Il existait déjà quelques établissements qui accueillaient des femmes sortant de prison, comme les refuges tenus par les sœurs du bon pasteur d'Angers. Mais ces femmes, si elles y trouvaient accueil et lieu de prière, ne pouvaient jamais y devenir religieuses. Le père Lataste souhaitait, lui, qu'il y ait fusion entre les religieuses et les repenties sans tenir compte du passé des unes et des autres. C'est alors que Mère Henri Dominique, religieuse déjà sensibilisée au problème de la réhabilitation des femmes détenues, rencontra Jean-Joseph Lataste à Flavigny. Ce fut le début d'une étroite collaboration. Après de nombreuses vicissitudes pour trouver un lieu où implanter la fondation, la congrégation put s'installer à Montferrand-le-Château dans le diocèse de Besançon. Le 13 août, les premières postulantes s'installèrent. Le 20 novembre 1866, le père Lataste reçut les professions de Mère Henri-Dominique et de Sœur Marguerite-Marie. Le lendemain, la maison de Franne-le-Château fut bénie par le curé du lieu, Mère Henri-Dominique, instituée prieure. Pour le fondateur, Béthanie n'est pas son œuvre, mais sera toujours celle de Dieu. Le principe fondateur étant qu'il n'y ait aucune distinction entre les réhabilités et les autres religieuses. et je cite Jean-Joseph Lataste, « Je désire que nul, excepté vous, ne sache de nos enfants la cause ni la durée de leur détention. Il faut que le passé soit absolument enterré et mis dans la tombe, qu'il n'y soit jamais fait allusion devant qui que ce soit, mais seulement en confession, en direction entre vous et elle. » Au mois de mai 1867, l'œuvre de Bethany comptait 12 personnes, dont 4 réhabilitées. Et c'est en la fête de Sainte-Marie-Madeleine, le 22 juillet 1868, que le père Lataste remit l'habit aux deux premières réhabilitées. Actuellement, les sœurs dominicaines de Bethany ont des implantations en France, en Italie et en Suisse. Guéri de son ostéomyélite en 1863, le père Lataste tombera à nouveau malade en 1868, contractant une infection pleurale. À l'approche de la mort, il pria pour ses filles et rendit grâce pour la vie qui lui a été offerte, tout en pardonnant à ceux qu'il avait combattus. Je remercie bien l'ordre de Saint-Dominique tout entier de m'avoir donné son saint habit. Je remercie bien et je bénis en mourant toutes les personnes qui m'ont approuvé et m'ont aidé de leurs prières, de leurs conseils, de leur influence, de leurs dons. Je pardonne à tous ceux qui ne m'ont pas approuvé et même qui m'ont contredit et combattu. Je prie Dieu de les bénir tous. Il s'éteignit le 10 mars 1869. Sa béatification a été célébrée le 3 juin 2012 à Besançon. La date de la fête du Bienheureux a été fixée le 5 septembre dans la bulle de béatification signée par Benoît XVI. À demain.